J'essaye d'imaginer quel effet a la guerre entre Uber et les taxis, par exemple dans la Drôme, à Oust-sur-Cie, voire de l'autre côté de la Combe de Saint-Jean, à Piégros-la-Clastre. J'imagine qu'on s'en fiche pas mal de ces histoires de taxis bloquant le périphérique, quand le seul taxi doux sert essentiellement aux personnes âgées et aux malades. Et cependant, je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est en train de se dérouler sous nos yeux, même si ça ne roule plus. Ce quelque chose, c'est le rouleau compresseur du capitalisme. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut s'éloigner de Paris, s'éloigner de la Drôme, aller jusqu'à New York. Là-bas, les taxis sont des pauvres parmi les riches. Ce sont des chauffeurs principalement immigrés qui parlent mal l'anglais, quelques étudiants, tous se plaignent de la dureté du métier. En France, au contraire, le taxi était jusqu'à présent un petit artisan qui avait payé cher son fonds de commerce. La plupart du temps, il votait à droite. Bon, il y avait aussi des taxis qui votaient à gauche, comme il y a des cirques sans éléphants. Eh bien, grâce à Uber, la situation des taxis français va enfin rejoindre celle des taxis new-yorkais. Les chauffeurs vont enfin devenir des pauvres parmi les miséreux. Ils croyaient avoir un capital, ils n'en ont plus, puisqu'aujourd'hui, n'importe quel possesseur d'une voiture peut devenir chauffeur Uber Pop et charger des passagers. Ils pensaient maîtriser à peu près leurs tarifs fixés par la préfecture. Aujourd'hui, n'importe quel chauffeur peut décider de rouler à perte. Le capitalisme alterne des phases de destruction et de création, on le sait. Eh bien, les taxis sont en train de connaître la phase de destruction. Leur seule solution, faire comme à New York, baisser leur prix, faire en sorte qu'Uber soit plus cher qu'eux, soit une belle alternative. S'appauvrir ou mourir, la loi du capitalisme ne connaît aucune entrave. Elle peut tout bouleverser, nous faire tout connaître, des taxis attaqués, des taxis martyrisés, même peut-être un jour des taxis votants communistes.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et puis aujourd'hui, il est donc question du partage. On en parle en compagnie de Louis Morin. Bonjour. Louis
Bonjour.
Morin, vous êtes directeur de l'Observatoire des inégalités. À côté de vous se trouve Dominique Goutard. Bonjour Dominique, vous êtes
Bonjour.
Délégué général de Capital Phi. Expliquez-nous en deux mots ce qu'est Capital Phi.
Eh bien, comme le nom l'indique, Capital Phi s'adresse aux jeunes filles à partir de la seconde jusqu'à la terminale, aux jeunes filles des quartiers et des zones rurales, parce que nous sommes partis d'un postulat, nos entreprises partenaires, 10 grandes entreprises emmenées par Orange et les pouvoirs publics qui nous accompagnent, c'est que l'avenir des banlieues, l'avenir des zones rurales passera par les filles. Encore faut-il qu'on leur donne les moyens, et c'est ce que nous essayons de développer depuis maintenant 4 ans avec Capital Phi, à savoir un accompagnement par des marraines, qui sont des collaboratrices de nos entreprises partenaires, qui s'engagent volontairement pour accompagner chacune une jeune fille pendant leur classe de première et de terminale.
Donc c'est une autre forme de partage, partage en quelque sorte de l'existence entre filles et garçons. Nous sommes également en compagnie de Guillaume Duval, notre confrère, rédacteur en chef du mensuel Alternative Économique. Et puis enfin, Albert Assaraf, directeur général stratégie, études et marketing de JC2Co France. Je vous ai demandé de venir, Albert Assaraf, parce que vous êtes responsable, si l'on peut dire, de l'apparition de vélos en ville et notamment à Paris, des fameux Vélib. Et depuis 10 ans, c'est l'une des choses qui a changé. On peut aujourd'hui partager un vélo. Comment vous est venue l'idée de ce service, Albert Assaraf?
Vous savez, depuis une cinquantaine d'années, le concept de JC2Co est toujours le même, à savoir apporter des services en ville qui soient utiles, faciles et qui nous rendent la ville plus agréable. Alors ça a démarré il y a une cinquantaine d'années avec les abribus, et puis il y a une dizaine d'années, nos différentes études ont montré qu'il y avait de nombreuses attentes autour d'une mobilité plus aisée en ville. Les gens nous disaient que la difficulté de circuler fait que nous souhaitons avoir des modes de transport alternatifs, nouveaux, pour une ville plus facile. Et donc nous est venue cette idée, alors non pas du vélo en libre-service en tant que tel, qui a existé en son temps avec Michel Crépeau à La Rochelle, qui avait inventé un concept identique avec les vélos jaunes, mais un système, où, cette fois, où il y a une dématérialisation totale, et où on peut prendre un Vélib à Paris, un Vélov à Lyon, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, et donc un service qui est devenu un service de masse pour une utilisation quotidienne.
Aujourd'hui, c'est un service qui s'est propagé, puisqu'il existe aussi pour les voitures, avec par exemple les Blue Cars de Bolloré et ce qu'on appelle l'Autolib à Paris, même si le modèle est un peu différent. C'est un système qui fonctionne et qui montre finalement de plus en plus que l'on a besoin d'objets dans un temps donné. C'est ce que l'économie de la fonctionnalité a montré. ce chapitre de l'économie qui montre finalement que nous avons besoin d'usage, de services et pas tellement d'objets.
Oui, je crois que c'est exactement ça. C'est une économie de l'usage et de la fonctionnalité et qui nous facilite beaucoup l'usage lui-même, puisque prenons les invités aujourd'hui autour de cette table. S'ils le souhaitent tout à l'heure en sortant de la maison de Radio France, ils pourront décider de prendre un Vélib alors qu'ils n'en avaient peut-être pas l'idée 5 minutes avant, il fait très beau. Et donc cette facilité de l'économie évite la propriété, évite aussi tout ce qui peut être lié à la propriété, la réparation, etc.
Donc ça c'est un sens du mot partage. Vous vouliez réagir, Guillaume Duval.
Oui, pour souligner que c'est un sens important pour le futur. C'est un sens qui paraît simple quand on le présente comme ça. C'est une idée de base de se dire pourquoi est-ce qu'on a tous une voiture, un truc qui coûte très cher, qui consomme beaucoup de matières premières et qui encombre nos trottoirs pendant 95% du temps. C'est une folie et ça fait très longtemps que c'est une folie. Mais en même temps, souligner aussi à quel point c'est difficile de changer de modèle, et je crois que J.C. Decaux en a fait aussi l'expérience sur les vélos, qui sont pourtant déjà quelque chose de relativement simple, parce qu'en fait, quand les usages changent, les produits doivent changer. C'est-à-dire que c'est pas le même vélo qu'on peut mettre à disposition du public dans ces conditions-là. Il faut construire toute une infrastructure pour organiser ces échanges avec les bornes, etc., etc. Donc c'est un changement de modèle qu'il y a derrière, et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et à équilibrer sur le plan économique. Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie sur cette question, que ça n'en a l'air quand on le présente comme ça.
On va continuer à évoquer le partage des objets, mais aussi le partage des richesses, tout de suite après Asaf Avidan, Little Parcels of an Endless Time, un disque choisi par Olivier Bétard et Thierry Dupin.
Little parcels of the past are spinning down towards the Gaia. And the sinuous truth I'm voiced is stretching up forever higher. Leaves of places, leaves of friends are blowing in the wind and falling. But my ship calls through the rain to the place that I am going. It got to be mistaken. It was an endless time ago. It got to let it go. They seem to find a way to blind me. Storms of old, I never told. Last year they were all the rages. All the sciences of motion cannot calculate my changes. Was it endless time ago? mistake. Oh, it was an endless time ago. You gotta let it go.
Service public sur France Inter, il est question du partage, car on revient sur des notions qui ont marqué ces 10 dernières années de service public. Alors, ça peut très bien être Julien et Fabrice qui se partagent le même vélo, Élodie et Chantal qui se partagent la même voiture, et ça peut être aussi le partage des richesses. C'est la raison pour laquelle il est important, Louis Morin, de mesurer les inégalités. C'est ce que vous faites à l'Observatoire des inégalités. Ça n'est pas forcément quelque chose d'aisé, parce que déjà, la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que la notion d'inégalité, qui paraît extrêmement simple, est en réalité une notion complexe. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, bien entendu, quand tout le monde a le mot inégalité en tête, ça paraît simple. Inégalité, c'est ce qui n'est pas égal. Il faudrait qu'on ait tous la même chose. En réalité, bien entendu qu'on n'est pas un observatoire des inégalités, mais on est un observatoire des inégalités injuste. Et toute la difficulté dans les inégalités, c'est de déterminer ce qui est résulte d'un mérite, d'un travail personnel, et puis d'une injustice. Quand on dit le partage de la richesse, tout le monde est d'accord sur le fait que tout le monde n'est pas le même salaire. Et à partir de ce moment-là, le partage est inégal entre les personnes. Il va falloir trouver des critères pour déterminer l'égalité. Et ça, c'est pas simple.
Alors, on en a quand même un certain nombre. On a des notions qui nous sont extrêmement familières, telles que la moyenne. Il y a des notions qui sont déjà un peu moins familières, telles que la médiane. Et puis après, des instruments extrêmement compliqués qui permettent de savoir si une société est égale ou au contraire inégalitaire. Qu'en est-il de la société française selon vous, Louis Morin ?
Alors, si on regarde la distribution, par exemple, des revenus, on va faire des tranches, on va prendre le gâteau des revenus, puis on va le découper en tranches de 10%, par exemple, et bien on s'aperçoit que après les impôts et après la prestation familiale, etc., donc tout gros système de redistribution, les 10% d'en bas, ils récupèrent 3,4% de l'ensemble des revenus, alors qu'ils sont 10%, et les 10% d'en haut récupèrent un quart du gâteau. Ça veut dire que les 10% du bas, en gros, récupèrent 7 fois moins que les 10% du haut. Et toute la question de savoir, c'est si, est-ce que c'est juste que ça soit 7 fois moins, ou est-ce que c'est pas juste ? Est-ce que c'est parce que ils ont pas fait assez d'efforts, ou est-ce que c'est parce que finalement, la loi du mérite fait que le gâteau est distribué comme ça ? Tout l'enjeu, il est là-dessus. Et notamment de regarder comment ça évolue. Au cours des 10 dernières années, la part du gâteau des moins favorisés a diminué, celle des plus favorisés a augmenté.
Guillaume Duval, la société française est une société inégalitaire selon vous, vous qui travaillez pour Alternative Économique, ou bien une société comme la société allemande qui est souvent montrée en exemple, est-elle un modèle plus enviable ?
Alors, la société française est inégalitaire, elle devient de plus en plus inégalitaire, et la crise en particulier beaucoup aggravé les choses en faisant baisser les revenus des plus pauvres, pas seulement des plus pauvres d'ailleurs, de quasiment une moitié des Français, pendant que les riches continuaient malheureusement à s'enrichir, eux. Donc ça, c'est vrai, mais en même temps, la société française est plutôt moins inégalitaire que d'autres, et elle le reste. C'est lié notamment au niveau de dépenses publiques que nous avons, qui joue malgré tout un rôle d'amortisseur très significatif vis-à-vis de ça. Bon, ça va peut-être changer, puisqu'il y a un consensus assez large, semble-t-il, dans la classe politique, pour dire que il faut baisser ses dépenses publiques très fortement au cours des prochaines années, mais en tout cas aujourd'hui ça joue malgré tout ce rôle de ma façon significative, notamment par rapport à d'autres pays.
Nous avons Mijo au standard qui nous appelle de Saint-Maxent-l'École. Bonjour Mijo.
Bonjour.
Vous êtes en direct.
Saint-Maxent-l'École.
Eh oui, c'est ça, Saint-Maxent-l'École, évidemment, mais on va apprendre au standard à bien l'orthographier.
Bonjour, moi je fais partie d'une association depuis quelques années, qui s'appelle Service d'échange local, le SEL. Peut-être vous connaissez.
Alors, nous connaissons, mais peut-être que certains auditeurs ne connaissent pas le système. Donc, en fait, l'idée, voilà, c'est de créer des unités de temps non monétaire.
Exactement. Et en gros, c'est les unités fictives, c'est pas très grave. C'est une feuille de compte pour la mémoire de l'association.
Et donc, vous pouvez échanger des services, par exemple, entre deux particuliers, sans qu'il y ait effectivement utilisation d'argent, ce qui est effectivement quelque chose qui se développe beaucoup. Merci, Mijot, pour cet autre exemple de partage. Guillaume Duval, est-ce le signe que finalement, lorsqu'on poursuit cette notion de partage, on peut aussi se passer de monnaie? C'est une utopie concrète?
De toute façon, l'activité monétaire n'a toujours représenté qu'une partie significative, mais pas totale de la production des services et des richesses dans le monde. C'est beaucoup de choses se passaient dans le cadre des familles, dans le cadre des échanges familiaux, etc. Dans les anciennes sociétés en particulier, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça peut s'organiser de la façon dont ça vient d'être présenté, et c'est important que cela existe. Mais en même temps, ça pose malgré tout aussi le même type de problème un peu que Uber Pop, c'est des gens qui ne payent pas de cotisations sociales, qui n'ont pas de droits sociaux derrière et qui ne payent pas d'impôts pour ce type d'échange, etc. Donc c'est une solution d'une certaine façon, mais ça pose aussi des problèmes de l'autre.
Ça veut dire qu'il faut que ça demeure une activité périphérique. Et puis le partage, ça coûte cher, vous en savez quelque chose Albert Assérave, puisque vous êtes directeur général de JC Deco. JC Deco, ce sont notamment les Vélib. Et ces Vélib, finalement, ils sont pas du tout gratuits, même si la somme que paye chaque utilisateur est très inférieure à la somme que coûte réellement un Vélib. Il faut que quelqu'un paye. Combien ça coûte un Vélib aujourd'hui?
Alors, il y a deux choses. Il y a l'objet en lui-même, mais qui n'est qu'une part, évidemment, du coût du Vélib, qui est à 630 euros.
C'est un vélo,
voilà, qui est tout à fait à part, puisqu'il doit résister à pratiquement 10 000 km parcourus par an, quand un vélo individuel en fait 250. Donc, on est sur quelque chose de particulier. Et puis, il y a toute l'infrastructure, les emplois, les ressources liées à ce programme. Et je rappelle que Vélib, c'est quand même près de 330 emplois à Paris. Et qu'évidemment, ce sont des investissements importants que nous avons consentis. Et donc, il y a un coût relatif au service lui-même qui est autour, sans doute, de 2000 à 2500 euros par vélo et par an. Donc, très loin quand même de ce qui a pu être estimé par des économistes. Mais je rappelle, parce que c'est un élément essentiel du modèle, que nous finançons ces services intégralement par la publicité. Et que donc, la ville de Paris, par exemple, n'a pas à payer pour le service, et mieux que ça, elle récupère par contrat les recettes des locations et des abonnements qui sont de l'ordre de 17 à 18 millions d'euros par an. Donc on voit qu'il y a quand même une vertu à ce système, ce qui ne veut pas dire qu'il ne coûte rien. Ça veut dire que tous les modes de transport ont un coût, y compris la marche à pied, puisqu'il faut bien construire des trottoirs de ce point de vue.
Puis pour ça use marcher. Les souliers, par ailleurs.
En plus,
c'est grave. Dominique Goutard, autre exception du mot partage chez vous, chez Capital Fille, une entité dont Radio France est partenaire.
C'est exact et nous nous en réjouissons. Et qu'est-ce que ça veut dire le partage pour nous, s'agissant des jeunes filles, des quartiers encore une fois et des zones rurales? C'est que nous essayons, grâce à nos très très nombreuses marraines à travers la France, elles sont près de 800, qui sont des professionnelles comme nous toutes, à savoir des femmes qui sont en activité et qui donnent de leur temps pour accompagner des jeunes filles dans leur orientation et dans leur choix de filière de formation. La notion de partage, elle a un sens particulier, c'est de partager ses réseaux, c'est de partager son information, c'est d'être aux côtés de ces jeunes filles qui partent avec un certain nombre de handicaps. On parlait d'inégalité, c'est une évidence qu'elles ne sont pas en situation d'égalité à l'égard du choix de filière et des formations ultérieures. Donc l'idée, c'est effectivement le plus en amont possible, c'est-à-dire dès la seconde et parfois la troisième, grâce à l'engouement véritable des professeurs pour un programme de ce type, qui est tout à fait complémentaire de ce que les professeurs peuvent apporter, accueillent les marraines Capital Fille dans leur établissement et permettent à ces jeunes filles, dans le cadre de ces binômes que nous constituons, une marraine, une filleule, de se projeter dans un avenir possible, de prendre de l'ambition, de se construire sa propre ambition et in fine d'aller le plus loin possible vers des études supérieures et vers une autonomie réelle, professionnelle et personnelle.
Louis Morin.
Oui, je pense que la question du partage du côté de l'école, pour parler du partage du capital culturel est tout à fait essentiel. Je suis d'accord avec Guillaume Duval quand il dit qu'on est plutôt une société égalitaire et parfois il faut bien remettre les choses en place. On a un très bon modèle social. En revanche, du côté de l'école, on a plutôt un modèle inégalitaire, même s'il faut pas l'exagérer, mais dans notre pays, le poids des titres scolaires, le poids de l'étiquette est extrêmement fort et colle aux Basques, non seulement des filles, mais aussi des garçons, des milieux populaires. Et là, il y a un enjeu de partage très très fort, à mon sens peut-être plus fort que celui de la réforme fiscale, sur lequel on échoue depuis des années et des années.
Nous avons une auditrice, Marie, qui nous appelle d'Orléans.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Oui, moi je voulais parler un petit peu des dérives, enfin vous l'avez déjà abordé un petit peu tout à l'heure, les dérives malheureusement qui se cachent derrière le mot partage. Ainsi, on a vu fleurir donc des partages. Moi je suis dans le milieu de l'hébergement et tout le monde connaît évidemment le site Airbnb, mais il n'y a pas que lui. Donc aujourd'hui on partage les appartements et les maisons, etc. Sauf que, en fait, c'est un business, c'est un des business du partage, et celui-ci en particulier, c'est un business, mais qui n'enrichit pas les plus pauvres. Parce que quand quelqu'un cherche à partager un appartement, on demande rarement un appartement dans une cité HLM de Sarcelles, vous voyez. En général, on voudrait bien avoir l'appartement en face de la Tour Eiffel ou dans un joli quartier d'une jolie ville. Donc en fait, c'est encore un système qui profite à des possédants vers d'autres possédants.
Vous-même, Marie, oui. Vous êtes hôtelière quand vous dites que vous travaillez dans l'hébergement.
Moi, j'ai une maison d'hôte et donc je suis déclarée, je paye mon RSI, je paye mes impôts, je suis contrôlée, enfin je suis comme un hôtelier et je trouve ça tout à fait normal. Il n'y a pas de raison que moi je ne sois pas soumise exactement aux mêmes conditions que mes collègues hôteliers. Et moi ça va, je m'en sors, mais je vois ce qui m'embête, c'est que le tort ne va pas pour des gros groupes comme Accor, etc. qui souffrent de
ils pourraient à un moment ou un autre se retrouver en difficulté. Mais juste une dernière question, Marie, oui. Avez-vous vu votre fréquentation, votre chiffre d'affaires diminuer depuis?
Oui, non mais clairement, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, dans la ville qui est à côté de chez moi, je suis dans un petit village, dans la ville qui est à côté de chez moi, la quantité de chambres qui se sont ouvertes en catimini, tout ça n'est pas déclaré au fisc. Donc, c'est des cotisations qui ne vont pas dans l'escarcelle du bien commun. Mais c'est incroyable.
Hein. En tout cas, c'est quelque chose.
Énormément.
Merci, Marie, pour cette remarque. Votre commentaire, Guillaume Duval, pour Alter Echo.
Bon, j'ai déjà dit qu'effectivement je partageais un peu ces inquiétudes, les inquiétudes qui viennent d'être exprimées sur le dumping social et fiscal que ce type d'activité peut exercer. Mais en même temps, il y a vraiment une question qui est centrale, je pense, pour la France, c'est la question du partage des logements. On est un des pays où
mais
on est
Airbnb,
le plus...
ça partage pas les
non,
logements.
Non, mais attendez, je vais y revenir. On est un des pays où les prix de l'immobilier ont le plus monté depuis 20 ans, où ils n'ont pas baissé depuis la crise, et c'est un des handicaps majeurs du pays. Je pense que si on était capable de mieux partager, mais c'est pas Airbnb, c'est un autre problème, mais si on était capable de mieux partager les logements existants, il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, c'est pour ça que je suis sensibilisé à cette question, mais qui restent dans leur logement quand leurs enfants sont partis, parce qu'on les a poussés à devenir propriétaires, etc., etc. Si on pouvait mieux partager les logements existants, on pourrait résoudre une partie très significative de la crise du logement en France aujourd'hui, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent pour construire des nouveaux logements et sans avoir aussi à artificialiser, enfin à bouffer des terres agricoles pour étendre encore plus les villes, etc., etc. Et ça, je crois que c'est un enjeu réel important, mais Airbnb, c'est autre chose.
Louis Morin, justement, au travers d'Airbnb, de la possibilité de louer une voiture chez un particulier, bref, de faire en sorte que l'on puisse avoir un revenu à côté lorsqu'on est particulier, qu'on n'est évidemment pas loueur de voiture, hôtelier, etc. Peut-on imaginer une diminution des inégalités? Peut-on imaginer une hausse sensible de certains salaires?
Alors, Si je suis chauffeur de taxi, je vais vous répondre, certainement non. Mais mes revenus vont plonger, au contraire. Je pense pas que, enfin, en termes d'inégalité à un niveau global, et puis on le voit par rapport à cette personne qui a des chambres d'hôtes, c'est un impact. Bon, pour certaines professions, ça sera très dur, et au contraire, ça augmentera d'une certaine façon les inégalités. À savoir, est-ce que ça va se diffuser dans d'autres domaines et créer une espèce d'économie de travailleurs pauvres, plus ou moins, peut-être avec un sous-statut.
En tout cas, UberCop aujourd'hui, ce sont des travailleurs pauvres, puisqu'on avait fait un reportage, et donc le chauffeur d'UberPop était payé 10 euros pour 24 minutes de circulation dans Paris. On voit à peu près à quel tarif on arrive lorsqu'on déduit l'essence. Et...
Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que les chauffeurs des taxis étaient de droite, ça je sais pas, mais c'est qu'on voit que de plus en plus... Mais on voit de plus en plus, et la personne tout à l'heure a parlé de biens collectifs, on voit de plus en plus de professions, de tous horizons, de tout, défendre notre système finalement, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la protection sociale, c'est tout un système social qui est là, et le débat me semble intéressant.
Albert Assiraf, lorsque vous avez créé Vélib, est-ce qu'on vous a reproché de faire du tort aux fabricants de vélos ou en tout cas aux réparateurs de bicyclettes?
Eh bien, en l'occurrence, oui. Beaucoup s'inquiétaient du fait que les vendeurs de bicyclettes, que les mécaniciens vélos allaient être en difficulté. Il se trouve que ça a été le phénomène inverse, puisque nous avons généré, avec ces grands programmes de vélos en libre-service, une nouvelle demande autour du vélo privé également. Et des gens ont ressorti leur vélo individuel, ont racheté un vélo parce que c'était plus pratique pour eux qu'un vélo partagé. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que le vélo, au sens large, est sorti gagnant, grandi, de ces programmes urbains qui remettent le vélo à sa juste place dans le transport urbain.
Cela a incité également les municipalités, notamment la municipalité parisienne, à équiper Paris de pistes cyclables. Et c'est important lorsqu'on compare ce qu'il y a d'autres services de vélo partage. Il y en a un à New York, mais il y a très peu de pistes cyclables. Et on se rend compte qu'il faut être complètement kamikaze pour rouler, par exemple, à New York en vélo.
Oui, c'est vrai que la ville de Paris, comme beaucoup d'autres villes, ont accompagné ce programme avec près de 800 km aujourd'hui de pistes cyclables à Paris, et cela facilite évidemment les déplacements sécurisés.
On écoute Johnny Cash, One, et tout de suite après, on continue à évoquer la notion de partage.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple,
love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One, 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 one.
Service public sur France Inter. Nous revenons sur la notion de partage, une notion qui aujourd'hui se conjugue de différentes matières. Bonjour Raphaël Mantou.
Bonjour Guillaume.
Certains partagent leur vélo, on en a parlé, d'autres leur tondeuse. Et vous, vous avez rencontré des personnes qui partagent leur bureau et leur crèche.
Oui, Guillaume, est-ce que vous avez déjà bercé un bébé au-dessus de votre bureau bien rangé en compagnie de vos camarades de travail?
Bien rangé, non, Raphaël.
Et bien...
Un bureau mal rangé, oui.
Eh bien, c'est maintenant possible avec ce nouveau concept qu'est le Cowork Crèche. Vous connaissez le coworking dans lequel il s'agit de partager son bureau. Et bien le Cowork Crèche est donc un bureau partagé dans lequel, pendant que vous parlez à un client, vous pouvez changer la couche d'un bébé, réchauffer un biberon et tout cela en négociant un contrat. Vos voisins de bureau peuvent jeter un œil sur votre bébé pendant que vous êtes en réunion. Je suis donc allée sur le terrain, l'atmosphère est studieuse. Anne-Claire est architecte, elle croule sous les dossiers pendant que ses jumeaux dorment sur les coussins d'allaitement.
J'ai un fichier à envoyer très très rapidement, à modifier, à envoyer très rapidement parce qu'il part à l'impression.
T'as une table de change, tu sais, dans les toilettes.
Ouais.
Là, t'es bien là. Et bah écoute, c'est... Non, mais c'est pas très grave, mais c'est pas mal à savoir.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Eh ben, je suis en train de changer la couche de mon bébé.
Là, vous allez changer votre autre bébé.
Exactement.
C'est ça. Ce sont des jumeaux.
C'est ça, ce sont des jumeaux. Une fille, un garçon. Et en fait, je vais peut-être même lui donner à manger, parce que là, la petite a mangé. Elle fait un peu moins de bruit, d'ailleurs.
Vous êtes venue aujourd'hui ici pour travailler?
Oui, mais j'ai mon poste ici. Voilà, ça se passe bien.
Aujourd'hui, vous êtes arrivée, vous vous êtes installée donc à votre poste de travail.
Et j'avais pas de garde pour les enfants, donc du coup, je les ai amenés ici. Et voilà, je me suis installée et je travaille. C'est plutôt agréable de se mettre justement dans un endroit où d'autres personnes travaillent, plutôt que de rester chez soi.
Et c'est pas trop épuisant justement d'être dans un espace de travail et d'avoir des enfants qui hurlent de tous les côtés?
Pour le moment, il n'y a pas suffisamment d'enfants qui hurlent. Mais non, en soi, non, il n'y a pas de souci. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait trop de bruit.
Moi, je m'appelle Muriel Igmourassen, je suis fondatrice de Cowork Crèche, premier espace de coworking parent-friendly à Paris.
Donc là, vous avez un enfant, donc un bébé qui est accroché en écharpe autour de vous.
C'est ça. Il y a des postes de travail, forcément, parce qu'on est dans un espace de coworking, on est dans une crèche. On est d'abord dans un espace de coworking, même si là tout de suite Titouan s'oppose à ce que je dis. Et du coup, l'idée c'est que les parents puissent travailler. Donc pour qu'ils puissent travailler, il y a des postes de travail. Mais les postes de travail dans un espace où il y a des tout-petits, bah forcément c'est à hauteur de tête pour les enfants qui marchent. Donc ça convient aux enfants qui ne marchent pas encore. L'idée c'est de pouvoir travailler ensemble. Déjà de ne pas être dans un lieu unique, c'est-à-dire de ne pas être à la maison en pyjama toute la journée. C'est de pouvoir se socialiser. Et c'est de pouvoir se socialiser avec des gens qui ont aussi les mêmes problématiques. Et ça permet quand même de sortir de chez soi.
Mais ça...
Jusqu'ici, quand on a eu plusieurs bébés ensemble, assez naturellement, les parents se sont entraidés, soutenus. Quand il y en a eu un qui a eu besoin d'aller en salle de réunion pendant une heure, l'autre a gardé son enfant, etc. C'est du soutien à la parentalité, c'est d'être ensemble. C'est pas du tout la même chose pour des parents d'être trois parents avec trois bébés tous ensemble, que d'être un parent avec un bébé seul chez soi.
Ouais. Ah bah oui.
Et voyez, vous la fascinez, donc elle vous regarde, et pendant ce temps-là, et ouais, et pendant ce temps-là, elle ne crie pas, elle ne pleure pas, et tout va bien.
Ah oui, c'est pas agréable. C'est pas agréable, bah oui. Donc l'idée, en fait, donc, c'est de partager aussi ça, ce moment de garde des enfants, etc.
Bah c'est, oui, c'est, je trouve que si un parent vient ici 8 heures dans la journée, s'il arrive à en travailler 4, bah c'est déjà super, parce que ça sera mieux que ce qu'il aurait fait à la maison, seul avec son bébé. Ce moment où il aura échangé avec les autres parents, ce moment où il aura été ici, dans cette énergie-là, c'est beaucoup de choses positives pour la suite.
Nathalie, ben moi je suis maman d'une petite Roxane de 20 mois et en reconversion professionnelle.
Vous arrivez à vous concentrer aujourd'hui pour travailler ?
Oui, bah je travaille beaucoup plus que depuis que quand je suis chez moi. Enfin, ça me dérange pas du tout de jeter un coup d'œil sur les bébés s'il y en a ici. Ils entendent pleurer ou rigoler, ou ça me dérange pas. C'est, enfin, je suis passée par ça maintenant, donc c'est pas grave.
Parce que tu vois, le manche, tu peux le relever jusqu'en haut.
Vous parlez poussette, là.
Ouais. Parce qu'on vient d'en voir passer une. Et j'avais un petit brin de nostalgie parce que c'était la même poussette que celle qu'avait ma fille quand elle était petite. Donc oui, ça fait partie des sujets qu'on peut aborder.
Oui, oui, ici, absolument.
Entre deux interrogations existentielles sur nos clients.
Donc cet espace de cowork crèche est situé à l'est de Paris. Sur les 50 bureaux partagés, 10 sont réservés à des parents avec bébé, histoire de ne pas se retrouver avec 50 poupons affamés dans un espace de travail. Les 40 autres bureaux sont comme des espaces de coworking classiques. Cowork crèche accueille tout le monde et le tarif est invariable avec ou sans enfant. La journée coûte 18 euros. Dans quelques mois, une crèche associative sera liée à l'espace de coworking.
Mais peut-on y envoyer des enfants veillés sans y aller soi-même? On va peut-être essayer de faire ça. Qu'en pensez-vous, Dominique Goutard, vous qui êtes déléguée générale de Capital Fille?
Écoutez, moi je trouve que c'est un piège absolu. Je pense que c'est la pire des choses pour une femme que d'imaginer qu'elle peut être professionnellement investie, ce qu'on lui demande, et on le demande aux femmes, peut-être parfois plus qu'aux hommes, et en même temps venir avec un bébé sur le dos et s'occuper des couches. Bon, je pense que c'est un faux débat. Je pense que on a la
solution,
chance,
vous voulez dire.
Une fausse, un vrai débat, une fausse solution. On a la chance d'avoir des services publics, hein, qui sont à peu près convenables en France, même s'il n'y a pas suffisamment de crèches. Et ce qu'il faut, c'est faire la part entre le privé, la sphère privée et la sphère professionnelle. Je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de garçons, de pères, dans ces fameux co-crèches. Je suis pour la mixité absolue, et nous sommes pour la mixité absolue. Mixité des métiers, ça c'est un véritable axe. Et si on veut que les femmes s'engagent dans une vie professionnelle épanouissante et à égalité de chance avec les hommes, il faut aller vers la mixité des métiers, ce que toutes nos grandes entreprises essayent de mettre en œuvre. Mais ça passe par, effectivement, le fait que les femmes vont faire les bonnes études et les bons choix d'orientation, d'où Capital Fille, et d'où, je crois, on parle d'intergénérationnel. Et ben, c'est une bonne façon de mettre en œuvre de l'intergénérationnel que de donner la main à ces jeunes filles des banlieues qui, encore une fois, sont très éloignées des réseaux et très éloignées de l'information sur leurs possibilités, leur potentiel. Et c'est ce que nous essayons de faire.
Raphaël Mantou, vous n'êtes pas d'accord?
Oui, non. Concernant le cowork crèche, vous parliez de la mixité en me disant que c'était pas tout à fait le cas. Il se trouve que c'est le cas. Les hommes sont évidemment les bienvenus dans cet espace de travail.
Ils n'ont pas été interviewés, c'est pour ça.
Non, ils n'ont pas été interviewés.
Non, par ailleurs, l'autre problème, c'est évidemment le manque de crèches dans un grand nombre de grandes villes, qui fait que, bon, lorsqu'on en trouve une avec ou sans enfant, le pire, c'est les crèches avec enfants, vous savez.
Non, mais là, c'est clairement l'illustration d'un déficit de partage dans notre société globale et de mise en œuvre d'une politique publique dans ce domaine-là. On sait qu'on s'ouvre en gros d'entre 200 et 300 000 places en besoins supplémentaires, en particulier dans certaines grandes villes. On ne le fait pas. On choisit de ne pas partager, de réduire les prélèvements. Je rappelle qu'on a un pacte de responsabilité qui va nous entraîner des dépenses de 40 milliards d'euros, plus de 40 milliards d'euros par an. On choisit ça à la place de l'offre de crèche, par exemple, ou la rénovation des prisons, tout ce que vous voulez, ou plus de logements, ou plus de maisons de retraite. Mais on fait des choix politiques contre la création de l'offre de crèche.
Eh bien, nous avons Jean-Claude au standard qui souhaite intervenir. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter. Nous vous écoutons, Jean-Claude.
Oui, alors moi je voulais parler des incroyables comestibles. Donc c'est un mouvement qui est né en Angleterre en 2008 à Todmorden. C'est une des villes du nord de l'Angleterre qui est beaucoup touchée par la crise économique. Et l'idée a été reprise un peu partout en Europe, notamment en France, et chez nous sur Épinal. Le principe, c'est de, si vous voulez, c'est de transformer l'espace public en jardin potager géant et gratuit. C'est-à-dire que investir tous les lieux où c'est possible de planter, de semer et de récolter. Et s'il n'y a pas de lieu, on peut même le faire dans les rues. On construit, nous, sur Épinal, des petits bacs en bois à base de palettes dans lesquels on met de la terre. Et puis, les gens sont invités à venir semer, planter et récolter les légumes et les fruits qui poussent à ces endroit-là. Il y a des petits panneaux qu'on ajoute où c'est inscrit, c'est les panneaux qui sont les mêmes pour tous les lieux. Nourriture à partager, servez-vous librement, c'est gratuit. Ce qui fait qu'on peut imaginer des rues où il y aurait un continuum comme ça de bacs remplis de légumes où les gens pourraient se servir librement. Donc c'est à la fois intergénérationnel, multiculturel, et c'est toujours toujours convivial et bienveillant, parce que les gens se regroupent, font un peu la fête aussi, voilà, pour célébrer un petit peu la floraison, voilà, etc.
Attention, hein, les enfants nous entendent, on va continuer sur les incroyables comestibles et essayer d'évoquer toutes ces initiatives. Effectivement, c'est une belle initiative concrète, Guillaume Duval, on les voit fleurir, si j'ose dire.
Oui, enfin, en tout cas, je pense que l'idée de rapprocher l'agriculture, la production de nourriture des villes et d'y insérer ce type de choses est important. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert et en particulier c'est à la base aussi de beaucoup de problèmes de santé publique, de cet éloignement qu'il y a aujourd'hui entre la production de nourriture et sa consommation. Il y a ce type d'activité, il y a aussi tout ce qui est... Enfin, tout ce qui permet à des agriculteurs de vendre en direct dans les villes, ces choses-là sont très importantes.
L'avenir du Vélib, Albert Assiraf, donc on a vu qu'aujourd'hui c'était un système qui fonctionnait, qui coûte de l'argent, mais qui permettait de partager un vélo. Pensez-vous qu'il soit possible de partager autre chose dans le domaine public, dans le domaine de la locomotion? Pensez-vous qu'il soit possible d'améliorer le Vélib?
À l'améliorer sans doute, puisque nous avons annoncé il y a quelques semaines, comme vous l'avez sans doute lu, Guillaume, la nouvelle génération, qui est un concept de vélo en libre-service électrique, mais avec une batterie portable dans sa poche, donc. C'est-à-dire que c'est la transformation d'un vélo actuel. Il suffit d'avoir sa batterie dans sa poche, elle sera connectée dans le futur à ce vélo, dans le panier, et vous partez en électrique, mais c'est vous qui décidez de vous abonner ou pas à ce service. C'est la décision de l'utilisateur, et surtout de le mettre en route ou pas. Parce que je rappelle que l'OMS, par exemple, rappelait que chaque kilomètre parcouru à vélo, c'est 1,21 euros d'économie sur les dépenses de santé publique, parce que tout ça est quand même bon pour la santé.
Même le vélo électrique, il y a quelqu'un que vous dégoûte. Dans ce studio, c'est Bertrand Vanier, le médiateur de Radio France.
Un vélo à assistance électrique, ça permet d'aller beaucoup plus loin avec facilité. Et donc, je pense que ce sera très utile pour un certain nombre, parce que même si on a près de 300 000 abonnés aujourd'hui à Vélib, on pense qu'on peut en avoir encore plus si demain la ville choisit ce modèle, mais nous verrons en 2017.
Oui, parce que Bertrand Vanier est cycliste.
Plus léger, il n'y aurait pas besoin d'assistance électrique.
Et oui, mais il serait moins résistant.
Mais le vélo électrique,
nos ingénieurs.
Qu'en pense le cycliste que vous êtes?
Il a mal aux jambes, déjà. Mais bon. Non, c'est bien le vélo, hein. C'est très très bien.
En matière d'évolution du partage, Louis Morin, lorsque vous observez les dernières évolutions de la société française, êtes-vous optimiste sur sa capacité à retrouver, reconstruire de l'égalité?
Écoutez, je vais vous surprendre, mais si j'étais pas optimiste, je ferais pas un observatoire des inégalités. On mobiliserait pas comme ça l'énergie d'une grande partie bénévole de gens qui pensent que notre société, elle a des ressources et des ressources énormes. des ressources financières. Mais non, non, mais voilà, il y a une crise qui est majeure de l'emploi. Mais enfin, il faut pas faire l'impasse sur toutes les initiatives qui sont prises. Et on a des moyens financiers. Quand on décide, je reviens sur le pacte de responsabilité, de gâcher 40 milliards d'euros en prélèvement obligatoire, on pourrait faire autre chose. On pourrait remplir plein de besoins sociaux comme des places de crèche, des maisons de retraite, tout ce que vous voulez. Donc je suis en réalité optimiste. Alors évidemment, quand on regarde l'économie, l'évolution du chômage, on se dit que là, il y a quelque chose de très grave, de très structurel, de très lourd. Mais en même temps, je pense qu'on a des ressources, on le voit de toutes ces initiatives qui ont été citées, on le voit avec notre protection sociale, notre modèle social qu'il faut défendre. Et voilà, c'est pas parce qu'on essaye de décrire, de comprendre les inégalités qu'on pense que foncièrement, elles vont s'accroître en permanence.
Il faut le défendre, mais d'un autre côté, Guillaume Duval, on entend beaucoup dire, même au gouvernement d'ailleurs, que ce système social est responsable d'une partie des inégalités. Ça peut paraître paradoxal, mais l'idée qui est défendue dans ce contexte-là, c'est de dire finalement que ce système protège ceux qui sont à l'intérieur et ne protège pas ceux qui sont à l'extérieur, par exemple, les chômeurs, les précaires. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors il y a plusieurs aspects dans votre question, mais en ce qui concerne le fait que les systèmes sociaux protègent ceux qui sont à l'intérieur, non, ils sont universels chez nous, de plus en plus universels. On a créé tout un tas de dispositifs pour mieux protéger les plus précaires.
Ce type de dispositif.
Oui, ce qui se passe, par contre, c'est qu'il y a un vrai problème qui s'appelle le non-recours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de droits qui existent, en particulier pour les plus précaires, mais qui sont tellement compliqués d'accès ils n'y font pas appel. Et là, je crois que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour lutter contre la fraude sociale, etc. Bon, je suis d'accord. Toute fraude dans ce domaine-là en particulier doit être combattue parce qu'elle affaiblit l'ensemble du système social. Mais s'il faisait autant d'efforts pour combattre ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire pour faciliter l'accès des très pauvres au système existant, ce serait tout à fait louable dans ce domaine.
Dominique Gouttard, l'avenir de l'évolution dans le domaine, du partage dans le domaine qui est le vôtre.
Oui, moi je voudrais simplement dire que moi aussi je suis optimiste, parce que quand on voit qui sont les jeunes d'aujourd'hui, qui sont les jeunes filles d'aujourd'hui, justement dans ces quartiers dans lesquels nous n'allons pas si souvent les uns les autres, moi j'y vais professionnellement, on se rend compte qu'il y a une énergie, il y a une volonté, les jeunes filles ont parfaitement compris que sans l'éducation, sans un effort particulier pour avoir les bons diplômes, elles seront les objets de toute une culture qui n'a aucune ambition pour elles. Et moi, je suis très optimiste parce que je pense que avec des programmes qui favorisent le partage, notamment entre les générations, mais nous avons aussi des marraines très jeunes, et le fait que les entreprises veulent des profils différents, eh bien, nous allons dans la bonne direction.
Merci Dominique Gouttard. Je renvoie à Alter Echo, Guillaume Duval, dont vous êtes le rédacteur en chef, le site de l'Observatoire des inégalités et un rapport sur les inégalités en France qui vient d'être publié en association avec Alter Echo. Et puis, les Vélib dans toutes les bonnes stations nous indiquent que la station Château Rouge est défectueuse. En fait, l'inforoute Vélib. Merci à tous. Voici maintenant le mot du médiateur.
Le rendez-vous du médiateur sur France Inter.
Et c'est un moment un peu émouvant puisque Bertrand Vanier, vous qui avez été si souvent et si longtemps à ce micro, c'est votre dernière chronique en tant que médiateur. Vous allez bientôt quitter Radio France. Voilà.
Je vais aller faire du vélo.
Ben voilà, vous êtes un cycliste émérite, donc vous allez pédaler. Vous avez déjà pédalé d'ailleurs.
Oui, 300 km le week-end dernier, ça vous va? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dernier rendez-vous du médiateur de la saison, en effet, sur l'antenne d'Inter, et dernier tout court pour ce qui me concerne, avec un sujet qui fâche, au-dedans comme au-dehors, un sujet de saison, la nouvelle grille. Chaque année, le mois de juin voit renaître le royaume des rumeurs dans l'ensemble du PAF sur ce qui est maintenu, sur ce qui change à la rentrée. Radio France ne fait pas exception à la règle. France Inter non plus. Comme tous les ans, m'écrit René, on apprend dans les dernières semaines de juin par des journalistes ou des animateurs eux-mêmes que telle émission s'arrête. Ce matin, c'était le cas avec la revue de presse. Ne pourrait-il y avoir sur le site de France Inter des infos sur ces changements de grille? René, vous avez raison. comme le veut le dicton, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, et on entend plus parler des changements sur Inter à l'extérieur que sur l'antenne elle-même. Je vais donc essayer de corriger cela en vous donnant les principales nouveautés que l'on peut annoncer pour la prochaine saison, qui commencera, c'est une info, le 24 août prochain. Nouveautés vérifiées et confirmées auprès de Laurence Bloch, la directrice d'Inter, qui va continuer à vous proposer une antenne punk. Je commence donc avec Le Matin et avec vous, Guillaume, puisqu'à la rentrée, vous proposerez du lundi au vendredi une chronique d'humeur, juste avant 7h. Exercice périlleux, s'il en est. Plus un autre rendez-vous.
Vous pensez que je vais me casser la figure en vélo?
Non, au micro, pas en vélo. À vélo. Plus un autre rendez-vous dont la forme et le timing restent à affiner. Plus de service public donc, en lieu et place, une émission de reportage présentée par Bruno Duvic, qui arrête donc sa revue de presse après s'être levé 6 années de suite avant l'aurore. Autre changement dans les matinales, l'arrivée de Marc Fauvel pour présenter le 8h. Et les autres émissions, me direz-vous? Les bruits et chuchotements inquiètent de l'autre côté du poste. Très déçu par la fin de l'Afrique enchantée, écrit Marie-Claire. Mauvaise journée depuis que j'ai appris que 3D a arrêté, se désole Annick. Je proteste contre le départ de Brigitte Kernel, me dit Catherine. Et encore Eric qui est inconsolable. Quand bien même Patrick Penaud arrêterait parce qu'il a décidé de le faire, je persiste, il n'a pas le droit qu'il pense un peu à nous. Alors, pour démêler le vrai du faux, voici les principaux changements à ce jour, mais le chantier est encore ouvert. Nathalie Dessay arrête, elle veut faire du théâtre. Pour la remplacer, Elsa Boublil. Après la bande des Belges, Nicolas Demorand prend en charge la totalité de la tranche 18-20, téléphone sonne compris donc. Hélène Jouan, qui en assurait l'animation, remplacera Bruno Duvic à la revue de presse. Dans la soirée, Pascal Clark a décidé d'arrêter Alive. Discussion en cours pour définir sa place sur l'antenne à la rentrée. De 21h à 23h, vous retrouverez Laurent Goumard, transfuge de France Culture. Et le week-end, eh bien, pas mal de changements. Patrick Penaud, donc, malheureusement, arrête son rendez-vous avec X, mais nous retrouverons sa mystérieuse gorge profonde à l'été 2016. Full stop pour Colin et Mauduit et leur balade américaine, mais ils proposeront le dimanche à 18h un rendez-vous décalé sur le sport avec le service des sports. Comment dit-on déjà? Choc des cultures? Plus d'Afrique enchantée en effet, Vladimir a décidé de poursuivre d'autres projets à l'extérieur d'Inter, mais l'aventure se poursuivra avec Soro Solo ailleurs sur l'antenne et sous une autre forme. Brigitte Kernel, je vous le confirme, arrête son émission. Stéphane Paoli aussi, mais là ne criez pas, Stéphane reste à l'antenne à la tête d'une grande émission dont on m'a demandé de ne pas dévoiler le contenu. Mais je vais vous en dire un tout petit peu, ce sera le dimanche. Voilà, c'est tout pour l'instant, c'est tout pour moi. France Inter continue, et pour tout savoir sur la grille d'été, cette fois-ci celle qui commence samedi, rendez-vous demain matin dans le 7-9 de Patrick Cohen, avec cette fois en vedette, la patronne Laurence Bloch.
Merci Bertrand, et bon vélo. Et Nagui est là aussi. Bonjour Nagui.
Oui, je ne sais pas si on va pédaler, nous, avec notre vélo, mais en tout cas, nous sommes là avec Camille en invité et Nicolas Duvauchel en duplex. Nous allons parler et cinéma et dessin animé et musique. Tout pour être heureux.
Merci Nagui. On vous écoute tout de suite après le flash.